Cours de philosophie critique par le père Philippe à Saint-Jodard le 16 décembre 1987.
Le cours de critique est toujours un peu rejeté, mis au bleu. Je crois que nous étions restés au passage de l'appréhension au jugement. Alors comprenons bien, on a analysé le jugement, puisqu'on parle du jugement. On analyse le jugement en voyant que le jugement ne peut pas être ce qu'il y a de premier. Et c'est là où il faut bien distinguer, dans l'ordre génétique, notre vie intellectuelle commence toujours par un jugement. Quand saint Thomas dit « Cadit primo in intellectus ens », c'est ce qui est. Donc, le jugement d'existence, et ce qu'il y a de tout à fait premier dans notre vie intellectuelle. L'appétit de l'intelligence, l'appétit naturel de l'intelligence, est de saisir la réalité existante, de la toucher. C'est un toucher, tingein. Le mot d'Aristote est très fort. C'est l'intelligence qui touche la réalité existante, et qui est marquée par cette réalité existante. Si on veut analyser ce qu'est ce jugement d'existence, on voit que l'intelligence, dans son développement proprement humain, étant donné sa fragilité et son lien avec les sens, ne peut dépasser l'aspect sensible que par une saisie quiditative. Elle saisit la quidité des réalités qu'elle touche. Donc, cette précision que nous faisons sur l'appréhension, c'est de saisir l'élément dans une complexité, l'élément premier, qui de fait n'existe jamais sans la complexité. Le jugement, ceci est complexe. Il n'existe jamais sans certains éléments. Et ces éléments eux-mêmes n'existent jamais sans la complexité. Vous voyez, on pourrait dire, et c'est très délicat, on pourrait dire qu'on est en face de ce qui spécifie le quid. Le tiesti. Dans le jugement d'existence, ceci est impliqué un élément qu'on appelle l'appréhension. L'appréhension est quiditative, donc elle saisit l'élément de détermination, la quidité. La quidité du ceci est. Mais cette appréhension n'existe jamais en dehors du jugement. C'est pour ça qu'il y a deux premiers, c'est ça qui est très difficile dans notre langage à exprimer. Vous comprenez, quand je dis que le jugement d'existence est premier, génétiquement. C'est vrai. C'est l'intelligence qui touche le réel. Qu'on condition sine qua non. C'est peut-être ça qu'on devrait dire. Condition sine qua non pour qu'elle puisse, pour que l'intelligence puisse s'exercer. Il faut la saisie de l'acuité. C'est simultané, vous comprenez. Il n'y a pas de priorité dans le temps. Ce qui est sûr, c'est que le jugement d'existence est premier génétiquement. Comme condition sine qua non, il demande la saisie quiditative. Parce que mon intelligence n'est pas intuitive. Mon intelligence n'étant pas intuitive, elle n'appréhende pas ceci est. Ceci est, c'est la réalité. La réalité existante. Cette réalité existante, c'est quelque chose d'autre pour moi par rapport à mon intelligence. C'est l'autre. Ce que Kant d'Abrel nous mène. L'intelligence touche ce réel. Pour toucher ce réel, condition sine qua non de se toucher, c'est d'appréhender quelque chose de ce réel. Si elle n'appréhendait pas quelque chose de ce réel serait complètement ignoré. Position de Kant, le noumen. Cet autre n'est pas le noumen grâce à l'appréhension, qui est à l'intérieur même du jugement. Très difficile à expliquer. Et je crois que c'est la seule manière qu'on doit dire, parce que toute autre explication, ça ne tient pas. Donc, l'appréhension, c'est la condition sine qua non, et c'est vrai, c'est l'élément simple. Qui dit appréhension dit quelque chose de simple, ça saisit l'acuité contenue dans le ceci est, contenue dans cette réalité existante. Toute réalité existante a une détermination. Toute réalité existante a donc une quidité. Et cette quidité, c'est la condition sine qua non pour que le jugement existe. Donc, si je veux comprendre comment il y a dépassement de la quidité, de l'appréhension, je reviens à la complexité du jugement d'existence et je dis que le jugement d'existence par l'acuité, l'acuité, où est-ce qu'elle se situe dans le jugement d'existence? C'est par rapport au ceci. Mais l'acuité n'est pas le ceci. Mais pour saisir le ceci, il faut l'acuité. Le ceci, ça correspond à quoi cette quidité? Vous avez là ce que Aristote dit. Le ceci, c'est la substance première, c'est Pierre. La quidité, c'est quoi? C'est la substance seconde. Vous comprenez comment, dans les prédicaments, substance première et substance seconde correspondent donc au jugement d'existence. Le jugement d'existence ne peut exister que s'il y a une certaine appréhension de ceci, substance seconde, quidité, à l'intérieur d'un ceci existant. Autrement, il n'y aurait pas de jugement d'existence. Alors, j'essaie de comprendre maintenant comment le dépassement de l'acuité me permet d'atteindre ceci. Donc, comment l'acuité substance seconde me permet d'atteindre la substance première. C'est simultané. Hein. Donc, on peut dire que l'appréhension est première et que le jugement d'existence est premier. Tous les deux sont premiers, mais dans deux ordres différents. L'un est premier dans l'ordre de l'exercice, l'autre est premier dans l'ordre de la spécification. Ici, c'est premier dans l'ordre de l'exercice. Ici, c'est premier dans l'ordre de la spécification. C'est très curieux, ça. L'ère de l'exercice contient la spécification. Il ne peut pas exister autrement. Mais la spécification est dépassée par le jugement d'exercice. Alors, je peux me poser la question, comment l'acuité peut-elle rejoindre le ceci? Comment la substance seconde peut-elle rejoindre la substance première? Il faut bien, puisqu'il y a trois éléments. Il y a ceci et l'acuité. L'acuité du ceci. Donc il y a bien trois. Tout jugement implique les trois. Comment mon intelligence qui, touchant la réalité, a comme réaction vitale d'assimiler cette quidité, d'assimiler ce réel dans ce qu'il a d'assimilable. Qu'est-ce qui est assimilable de ce réel? C'est sa quidité. Donc, réaction vitale de l'intelligence. L'intelligence, touchant le réel, saisit du réel ce qu'elle peut saisir. Prenez l'abeille. Elle est attirée vers la fleur, puis elle prend le pollen. Et c'est le pollen de l'intelligence, l'appréhension. Puis après, elle repart. C'est très curieux, ça. L'intelligence, touchant le réel, saisit. Réaction vitale, vous n'avez pas conscience. Mais vous voyez qu'il y a nécessairement cette appréhension de l'acuité. Qui se fait selon un mode abstrait. Et que cette acuité n'est jamais saisie pour elle-même. Je l'analyse comme une condition sine qua non. La condition sine qua non, ce n'est pas un principe. C'est ce par quoi cette réalité n'existerait pas. La condition sine qua non, je ne la mets en valeur qu'en analysant. Et je vois qu'en effet, s'il n'y avait pas appréhension de l'acuité, il n'y aurait pas saisie d'un jugement. Parce qu'il y aurait simplement ou le reflet à la manière de Garaudy. Garaudy que l'intelligence reflète le réel, mais ne l'assimile pas. Ou à la manière de Kant et aussi de Occam, puisque là Occam, Kant trouve son grand-père dans Occam, à la manière de Occam et à la manière de Kant, on ne regarde que la condition sine qua non sans regarder le jugement, et on dit tout simplement que le jugement c'est une addition de quidité. Et donc, on ne saisit rien du réel. Et le réel, l'autre, est le nous-mêmes. Vous voyez comme c'est curieux, hein ? Vous avez deux positions extrêmes, là. Alors, l'intelligence passe de l'acuité, condition sine qua non, qu'elle saisit en touchant le réel. C'est parce que l'intelligence est ordonnée à l'être que l'intelligence ne s'arrête pas à l'acuité et que l'acuité n'est qu'un, j'allais dire, un co, ce par quoi je saisis le réel, condition sine qua non. C'est-à-dire, l'intelligence est ordonnée à est, et c'est le verbe. Voilà le circuit de l'intelligence. L'intelligence est directement, j'allais dire, oui, mettons comme ça. L'intelligence atteint l'exister et l'être. primo cadit in intellectus ens. L'intelligence saisit être. Naturellement, elle appréhende l'acuité. Par l'être, l'acuité reprend l'aspect concret du ceci. Et ici, vous êtes en face de l'abstrait. Et l'intelligence est n'est ni abstrait ni concret, et existe dans le concret. Mais il n'est pas le concret et l'abstrait, il est l'acte. Il est acte. Et c'est cela que l'intelligence saisit, elle est attirée par ça. Elle est attirée par l'acte. Elle est attirée par est, par l'être. Parce qu'elle veut trouver son bien. Alors, c'est l'être qui me permet d'utiliser cette condition sine qua non, cette quidité, pour redécouvrir et atteindre le ceci. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment. C'est complexe, c'est pas simple. Et c'est pourtant ce qui est le plus simple dans notre vie intellectuelle. Mais comme c'est compliqué d'expliquer. Mais c'est pas étonnant, vous voyez. Notre intelligence dépasse de beaucoup notre langage. Notre intelligence a un dialogue direct avec la réalité. Le langage, ben, il vient après. Et le langage essaie de comprendre à la fois la simplicité du jugement d'existence, ceci est, et la complexité de ce jugement. Parce que quand je saisis quelque chose du réel, je saisis quelque chose du réel. Je ne saisis pas d'une façon exhaustive le réel. Je saisis quelque chose du réel. Alors, qu'est-ce que je saisis du réel? Et substance seconde, substance première. Je saisis les trois dans l'unité. Ça fait comprendre l'importance des prédicaments, substance première, substance seconde. Je saisis les trois dans l'unité. Ah, ça, c'est intéressant de voir que l'intelligence, dans son jugement d'existence, elle n'est pas dialectique, hein, mais elle saisit les trois. C'est peut-être très important de comprendre ça. Que l'intelligence, dans son mouvement tout à fait premier du jugement d'existence, ceci est, implique trois aspects. Le verbe, le sujet, l'acuité. Oui. Les trois se tiennent. Et les trois sont un dans le jugement d'identité. Ceci est, c'est un. C'est un par l'acte. C'est le verbe qui actue. Toujours. Il actue l'acuité, faisant que l'acuité devient concrète dans le ceci est, qui lui-même est actué par les deux. Et je crois que ça explique, hein, si on essaie de comprendre, parce que c'est complexe, c'est pas commode. Ça n'a pas été expliqué, hein. Vous ne trouverez cette explication nulle part. Du moins, je crois. Suzanne Mention, qui était professeure à Louvain, a écrit un livre sur le jugement d'existence. Mais elle n'a pas saisi. Elle a fait une analyse d'Aristote. Je crois que tu restes sur le jugement d'Aristote. C'est pas le jugement d'existence. Mais elle n'a pas saisi que le jugement n'est intelligible pour nous que par le jugement d'existence. C'est le premier. Et le jugement, c'est un toucher. Ça, qu'est-ce que vous expérimentez quand vous dites ceci est un toucher? Tant que vous n'avez pas touché, vous ne savez pas si ça existe. Je prends toujours l'exemple des soucoupes volantes. À un moment, on en parlait beaucoup, maintenant, on en parle beaucoup moins. C'est par vague, parce qu'ils dorment pendant ce temps-ci, et leur rythme n'est pas le même que le nôtre. Alors, ils dorment. Mais pendant un moment, on parlait beaucoup des soucoupes volantes. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'on ne disait jamais qu'on les avait touchées. Tant qu'on n'a pas touché, jugement d'existence.
Est-ce qu'il peut y avoir un jugement d'existence à travers un appareil optique, par exemple ? On se posait la question.
Quel genre, par exemple ?
À travers un microscope, est-ce qu'on peut poser un jugement d'existence sur...
Sur quoi ?
Un organe de...
Sur ce que vous voyez ?
Oui.
Non. Parce que vous l'avez abstrait. Ce que vous voyez à travers le télescope, venez, vous ne savez pas comment il existe, puisque vous l'avez modifié. Et même à travers des lunettes, les lunettes corrigent quelque chose de naturel. C'est la différence. C'est la différence entre l'outil et le dans l'industrie, le point de vue que vous faites. Voyez, les lunettes sont un instrument tout à fait élémentaire, entièrement pour corriger l'œil. Tandis que le télescope n'est pas pour corriger l'œil. Hein? Petite différence. Vous voyez la différence ou pas? Prenez la différence. C'est la question de l'outil, ça. Bon. L'outil premier, c'est le prolongement de la main. Prolonger la main. Quand l'outil devient extrêmement complexe, et que vous avez devant vous un outil, on le verra du reste en philosophie de la nature, en philosophie de l'art, un outil extrêmement complexe, composé de telle manière que vous n'avez plus qu'à surveiller, tout est déterminé. Vous voyez, je vois ça à Bethléem, où elles ont une machine extraordinaire, pousser une bûche de bois, vous dans un certain temps, c'est une statue. Tout est déterminé pour ça. Vous voyez, la différence, quand c'était le sculpteur, il prenait des outils, il sculptait le bois, c'est lui. Là, c'est la machine. Vous surveillez. Après, il y a... Oui, à dégrossir un peu, mais c'est fait. La machine a tout fait. La machine a fait une statue. La machine a statue. Alors, est-ce que la machine à statue voit la statue? Elle l'a fait. Selon toutes les déterminations qu'il faut. Oui.
Dans un microscope, un télescope, ce n'est qu'une série de lentilles.
Non, oui, d'accord, mais... tout dépend de ce qu'elles font, ces lentilles. Le jugement d'existence demeure au point de départ, mais la quantité que vous saisissez, elle est loin du jugement d'existence, puisqu'elle est grossie. Prenez, quand vous essayez de comprendre ce que c'est que la quantité des choses sens, des choses réelles, c'est donc une détermination qui existe selon telle modalité. C'est-à-dire la modalité particulière de son conditionnement. Toute quidité est liée au corps, au sensible. Et il y a une harmonie entre les deux. Entre l'élément quiditatif et l'aspect corps, et l'aspect matière. Et le ceci, c'est les deux. Quelle différence y a-t-il entre ceci et la quidité? Ceci, pierre, et la quidité homme, c'est qu'il y a une harmonie naturelle entre les deux. Mais si c'est Jacques, c'est pas pierre. Si c'est Jules, c'est pas pierre. Et ainsi de suite. Vous avez tous les éléments individuants. Or, l'élément individuant est abstrait de la quidité. Vous êtes d'accord? Mais comme cette abstraction est naturelle, le jugement d'existence demeure au point de départ, puisqu'il n'y aurait pas saisie de la quidité s'il n'y avait pas jugement d'existence. c'est dans le jugement d'existence que je saisis l'acuité, et parce que c'est dans le jugement d'existence que je saisis l'acuité, l'acuité est toujours liée au jugement d'existence. Et c'est pour ça que de l'acuité, je peux revenir à la substance première. Vous voyez bien ça? Donc, il y a un lien naturel, bien qu'il y ait une abstraction. Une abstraction, j'allais dire, ici c'est une abstraction, donc c'est une abstraction, c'est une abstraction universelle, mais une abstraction naturelle. Les lunettes sont un outil qui corrige la visibilité pour essayer de la rendre normale. Bon, s'il n'y avait que des myopes, quelle serait la visibilité normale? Ça serait être myope. Bon, on corrige la visibilité d'un myope sur le type normal. Donc, on vous rend une visibilité normale et naturelle. C'est pour ça que je dis, l'outil est relatif à l'organe. Fatigué ou malade, vous voyez, c'est relatif à l'organe, pour que l'organe retrouve une manière de connaître qui soit normale. Pas plus que ça, hein. C'est rien de plus. Donc, ça ne me dit, c'est ars coadjuvans naturam. C'est un art qui vient corriger les défauts de la nature, mais c'est un art qui est tout entier relatif à la nature. Vous comprenez ça? Vous voyez bien? Bon. Si maintenant, mes lunettes sont particulièrement perfectionnées pour que ce n'est plus relatif à un œil, c'est relatif à quoi? C'est ça que j'aime voir. C'est relatif à quoi? C'est relatif tout simplement au phénomène de grossir le plus qu'on peut. C'est ça la finalité. Grossir le plus qu'on peut pour qu'on puisse analyser. Pour qu'on puisse diviser des choses qu'on ne verrait pas autrement. Parce que le phénomène du grossissement permet de fait de faire des analyses qu'on ne ferait pas autrement. Ces analyses ont un fondement dans le réel. Je ne nie pas du tout que le jugement d'existence est toujours présent. Mais c'est l'harmonie entre ce que je saisis et le jugement d'existence qui me fait dire ce que je disais tout à l'heure. Je ne peux pas dire que ce que je vois existe à la manière dont je le vois. Oui, il y a l'œil hiatus. Et c'est là toute la différence avec les lunettes. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus, parce que je vous ai raconté cette histoire. C'est toujours comme ça. C'est sûr, il faut toujours être en face d'un fait pour vous obliger de réfléchir. Donc c'était le professeur Marois, s'il peut, je le ferai venir un jour ici, qui a fait une conférence. C'était à Poissy, extrêmement intéressant sur ce qu'il appelait la politique de la vie. C'était palpitant. Vous voyez, c'est la politique de la vie, c'est pas du tout l'homme, hein, c'est la politique de la vie. Puis après, c'était convenu comme ça du reste, j'avais accepté le jeu. Après, on m'a demandé de dire qu'est-ce que le philosophe va dire. On n'a pas demandé après qu'est-ce que c'est que le théologien, on aurait pu. Qu'est-ce que le philosophe veut dire? Là, j'ai dit premièrement, tout ce que le professeur Marois a dit, c'est obtenu en fonction de tel ou tel microscope. Qui grandit, je ne sais plus combien, hein, les microscopes électroniques, ça grandit de combien? C'est fou, c'est prodigieux, c'est... Quoi? Combien? 50 000. Oui, peu importe. Mais c'est bien de mettre un chiffre, vous voyez. C'est possible. Mais alors, vous regarderez, hein, et vous me le direz, c'est toujours intéressant. Ça fait mieux de le dire. 50 000. Ça grossit 50 000. Bon, prenez ça comme à titre d'hypothèse. Vous voyez ce que ça fait comme déséquilibre du ceci. Parce que vous augmentez un élément, 50 000, l'harmonie avec le reste. Qu'est-ce que je peux grossir et qu'est-ce que je ne peux pas grossir? Alors c'est là où la critique philosophique vient. Parce que moi j'ai commencé tout de suite à dire, bon, le professeur Marois dit ça, résultat de toute une science grâce à tel instrument. Pourquoi le philosophe aujourd'hui qui étudie le vivant ne se sert pas de toutes les conclusions qui sont palpitantes, extrêmement intéressantes, et qu'il continue de répéter ce que le vieil Aristote avait dit, ce que saint Thomas a pu dire, qu'il continue de répéter ça, en étant convaincu qu'il dit quelque chose de beaucoup plus profond que ce que dit, avec toute la révérence que je dois à la science, le savant d'aujourd'hui. Pourquoi fait-il ça? Alors, ils étaient tout ça, c'était des polytechniciens qui m'écoutaient en plus. Ils avaient la moitié des polytechniciens. Donc il fallait faire attention. Mais en même temps, ça les intéressait beaucoup de voir ce dialogue. Et le professeur Marois, lui, d'emblée, comme il n'est pas philosophe, je lui parlais chinois. Ça lui est tout à fait indifférent. Et oui, il y a sûrement quelque chose d'autre que la science. Ça, j'étais tout à fait d'accord, parce qu'il est croyant. Il y a sûrement quelque chose d'autre. Et quand, parce que vous savez bien comment ça avait commencé, ce dialogue entre nous, ça avait été très curieux. Le professeur Marois avait été invité comme scientifique au concile, parce qu'il était grand ami de Paul VI. Il était venu une fois à Poissy, et je traitais le mal. Tout le monde m'avait demandé, parce que c'était eux qui précisaient les sujets qu'il fallait prendre. Le mal. Il assistait, je ne le connaissais pas, je ne savais pas du tout qu'il était là. Je voyais simplement une tête nouvelle, et puis c'est tout. Puis il développait ça pendant 2 heures. Puis à la rapproche, je demandais s'il y avait des questions. Et le professeur Marois levait la main en me disant, père, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Mais ça n'a pas d'importance. Mais je tiens à vous dire que tout ce que vous avez dit m'intéresse beaucoup. Et profondément, je suis d'accord. Puis alors après, il m'a dit, comment se fait-il qu'au concile, je n'ai eu contact avec aucun des théologiens? Et comme maintenant, première conférence avec vous, je dis, on peut s'entendre. Ça, c'est une expérience. Ça m'a beaucoup frappé, c'est une chose qui me frappe toujours beaucoup. C'était la même chose avec François Michelin, que je ne connaissais pas. Vous savez, je faisais des conférences sur le travail à Paris. Puis alors, une brave jeune fille, après, elle me dit, « Oh, est-ce que vous pourriez voir papa ?» Je lui dis, « Mais c'est qui, papa ?» Elle me dit, « C'est François, François Michelin. » Alors, je dis, oh, ça m'intéresserait beaucoup de voir. Parce que... Puis François Michelin m'a dit, « Ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est que ça correspond à toute mon expérience, mais moi, je ne sais pas le dire. Je n'arrive pas à l'analyser. » Oui. C'est ces choses-là, je pourrais en citer des quantités. Là, je cite 2 qui en valent la peine. Vous voyez, qui montrent combien l'analyse philosophique atteint le réel. Et quand on le dit, ceux qui sont dedans et qui veulent respecter ce réel, alors se trouvent d'accord. En disant, je ne pourrais pas le dire. Je ne sais pas comment vous le dites, mais je suis d'accord, je sens que vous touchez quelque chose de réel. Alors Marois, ça m'a beaucoup impressionné, je lui ai dit, c'est pas étonnant, parce que tous les théologiens que vous aviez n'étaient pas des réalistes. C'est des phénoménologues. Alors la phénoménologie, vous savez bien, la phénoménologie, elle est née des sciences mathématiques. Et elle se sépare du réel. Comment voulez-vous que un biologiste s'intéresse à ce que le phénoménologue lui dit? C'est 2 langages différents, c'est tout. tandis que ça n'intéresse ce que le philosophe réaliste peut dire. Il comprend très bien que c'est des niveaux d'intelligibilité différentes, mais qu'on touche le même réel, sous un aspect différent. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Alors, j'ai donc repris en disant, bon, pourquoi ? C'est parce que c'est très très simple, vous avez tout de suite saisi, hein, et c'est très important, je l'ai déjà dit, mais c'est une chose capitale à saisir. La distinction que fait Aristote entre les sensibles propres et les sensibles communs. Ça n'a l'air de rien. Cette distinction, saint Thomas l'a acceptée et Descartes l'a refusée. Descartes considère que les sensibles propres sont subjectifs et que les sensibles communs sont seuls objectifs. Descartes dit ça textuellement. Vous comprenez que c'est capital, cette distinction. Parce que les sensibles propres sont indivisibles et donc ne peuvent pas être grossis par le microscope. Donc petit à petit, ils sont éliminés. Il n'y a que les sensibles communs qui sont vus, puisque c'est le divisible qu'on peut grossir. Vous ne pouvez grossir indéfiniment que le divisible. L'indivisible ne se grossit pas. Il se saisit ou ne se saisit pas. Donc, toute la nature, hein, le propre de la nature, c'est l'équilibre entre les sensibles propres et les sensibles communs. Vous savez bien ce que c'est que les sensibles communs. Qu'est-ce qui ne sait pas ce que c'est que les sensibles communs? Lève la main. Bon, alors, les sensibles propres, c'est ceux que seul un sens saisit, la lumière, le son, la chaleur, l'odeur. Le sensible commun, c'est celui qui est saisi par les cinq sens. C'est pour ça qu'on dit commun. Alors, quels sont ces sensibles communs? Ça, il faut les savoir par cœur. Il faut aussi, après, les retrouver, hein. Mais il faut les savoir par cœur. Aristote les donne. Et saint Thomas les reprend. Le mouvement. Le repos. Eh bien, le mouvement. Vous voyez un avion. Donc, vous voyez le mouvement. Vous touchez le mouvement. Et quand vous prenez un très gros bonbon, vous le roulez dans la bouche. Hein? C'est le mouvement. Le mouvement qui est saisi dans la bouche. C'est pas la même chose, hein, que de toucher une meule qui tourne à toute vitesse, vous mettez votre main dessus. Ça vous râpe la peau. Vous mettez le pied dessus si vous aimez mieux, parce que comme la peau est moins sensible, vous risquez de faire davantage saigner. Vous entendez un mouvement. Vous l'entendez. C'est très curieux. Et vous le sentez, le gaz qui arrive. Donc, sensible comme un repos, l'opposé. Et alors, vous avez le nombre, la grandeur, la figura. Voilà, sensible comme un. Ce sont les sensibles qui conditionnent les sensibles propres. Et donc, ils sont mesurables. Alors vous voyez, pour vous montrer tout de suite, l'univers que vous faites avec le microscope électronique, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous n'avez plus que le divisible. L'équilibre entre le sensible propre et le sensible commun disparaît. Vous avez un monde quantitatif du divisible. Parce que les sensibles propres, on le verra à propos de la qualité, je reprendrai cette distinction au plan métaphysique. Parce que c'est capital, ça. Et quand Descartes supprime ça, vous voyez, il montre qu'on ne peut plus distinguer la philosophie et la science. Pourquoi le philosophe ne prend pas le microscope électronique? C'est pour sauvegarder les sensibles propres. Le philosophe, il est le gardien des sensibles propres. Très belle manière de définir la philosophie, vous voyez. Tandis que le savant, lui, mesure. Et vous voyez, plus c'est grossi, plus on grossit les sensibles communs, plus on peut le diviser. Alors on a des divisions qui sont extraordinaires. Mais, vous voyez, quand je dis ce n'est pas le réel, je veux dire ce n'est pas comme cela que ça existe. Vous faites des monstres. Je regrette, mais enfin, la science, c'est la science des monstres. C'est très curieux. Mais c'est une fois qu'on a compris ça, on se dit, mais oui. J'avais expliqué ça une fois à un Espagnol, un grand d'Espagne, qui était docteur en biologie de Genève, et qui était venu à Fribourg suivre certains séminaires. Quand j'ai expliqué ça, elle m'a dit, mais alors toute cette science biologique à laquelle on apprend que je... Alors quoi, qu'est-ce que ça fait toucher? Je dis, ça fait toucher quelque chose du réel, c'est sûr, mais attention. Attention. Ça explique des quantités de choses, vous comprenez? Ça explique... On voit très bien comment... Et c'est très simple, vous voyez, c'est la petite fronde, ça, de David en face de Goliath. C'est assez impressionnant, du reste. Dès que vous voyez ça, vous dites, ah. Et c'est pour ça que, du reste, les physiciens, des biologistes et des physiciens modernes, se servant de ces instruments, disent, on n'a plus besoin que d'un seul sens, le regard, la couleur. Et uniquement pour que le signal apparaisse ou le signal n'apparaisse pas. Vous êtes obligé de colorier de couleurs qui sont factices pour qu'on voit. C'est affolant. C'est un monde que vous ne touchez plus. On dit à tous des martiens. Vous ne touchez plus ce monde-là. C'est uniquement l'œil qui saisit la mensuration. C'est pour ça que je ne peux pas, à partir de rejoindre le jugement d'existence. Il est fondamental, mais pas formel.